Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polotec
et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Dominique Bourrel, historien, directeur du Centre de recherche français de Jérusalem de 1996 à 2004, que nous recevons donc aujourd'hui pour sa monumentale biographie de Martin Buber qu'il vient de publier chez Albin Michel avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, Martin Buber, sentinelle de l'humanité. Alors pour cette biographie extrêmement documentée, vous avez étudié l'abondante correspondance de Buber, mais également les archives à Vienne, Berlin ou Jérusalem, où sont notamment conservés les manuscrits originaux, et vous avez rencontré ses proches, la famille ou ses élèves. Pour finir, il vous a fallu 20 ans, je crois, pour achever ce livre, ce parcours d'un penseur dont la vie comme l'œuvre est multiple et difficilement définissable. Martin Buber, né à Vienne en 1878, mais grandi à Lemberg, en Galicie, cela jouera un rôle important, on va le voir, mort en 1965 à Jérusalem. Martin Buber, un penseur juif, éditeur, directeur de revue, sioniste, humaniste, auteur d'une œuvre dont on citera ici pour commencer « Je et tu » ou encore « Les récits racidiques ». Alors c'est vous, Dominique Bourrel, qui allez pouvoir nous ouvrir à sa pensée tout au long de deux émissions exceptionnellement de Mémoire vive, ce dimanche et dimanche prochain. Pour commencer, vous qui avez fréquenté sa vie et son œuvre, donc pendant ces 20 dernières années, qu'est-ce qui vous a captivé chez Martin Buber? Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre cette biographie?
Alors j'ai trouvé d'abord que Martin Buber était un juif heureux, et comme vous savez, c'est une de mes spécialités et un de mes désirs, et surtout c'est quelqu'un de très généreux intellectuellement et quelqu'un qui est en même temps un philosophe, un savant en matière juive, quelqu'un qui a eu un très grand engagement politique dans le sionisme et après pour l'entente avec les Arabes, et enfin quelqu'un qui a traduit la Bible, ce qui n'est quand même pas très courant, avec son ami Franz Rosenzweig. Donc vous reconnaîtrez d'ailleurs un peu le type de vie qu'avait eu mon ancien amour Moses Mendelssohn, c'est-à-dire c'est des philosophes qui sont des philosophes mais qui font aussi autre chose que la philosophie, et comme vous l'avez rappelé, ayant été de longues années en poste à Jérusalem, j'ai pu fréquenter les papiers et les archives, et Buber, comme beaucoup des gens de sa génération, était un peu un graphomane, et il y a à peu près 50 000 lettres écrites dans une dizaine de langues, donc forcément ça demande un peu de temps.
Alors ce qui est frappant à la lecture de cette biographie, c'est que Buber a toujours, tout au long du siècle, été sur au moins trois fronts en même temps. D'un côté, donc, le sionisme, un regard toujours porté vers la Palestine, mais c'est aussi un philosophe profondément inscrit dans la tradition allemande et surtout un intellectuel de son temps qui côtoiera toutes les figures majeures de la Mitteleuropa, de Zweig à Louandré à Salomé, en passant par Freud, dont il était le voisin, Kafka et Benjamin. Et puis, il y a aussi cette prégnance de Lost Jude. Buber ne se sentira jamais tout à fait viennois, bien qu'il soit né à Vienne. Alors, il faut dire que dans sa formation, il y a un fait fondamental, c'est le divorce, et puis la séparation avec sa mère, alors qu'il est encore un très jeune enfant, et le départ à Lemberg, en Galicie, où il sera élevé par ses grands-parents.
Voilà, vous avez tout à fait raison de souligner ça, parce que ça a été pendant très longtemps un aspect un peu minoré, non pas le divorce de ses parents, puisque ça, on pense que tout son travail sur le jeu étu et les problèmes de relations vient probablement aussi de ce fait, mais il arrive dans la ville de Lemberg qui est une grande métropole. De temps en temps, je dis, en manquant un peu de charité, que nos collègues qui s'occupent des Ostjuden ne parlent que de Shtetl, c'est-à-dire que c'est toujours les Juifs qui sont pauvres, qui sont les objets des pogroms, etc. Et or, à Lemberg, c'est le contraire. Lemberg est une capitale, il y a 5 universités, il y a un polytechnicum, il y a des cardinaux, il y a des jésuites, il y a des musulmans, il y a... C'est une ville absolument extraordinaire, et son grand-père est un très grand savant, spécialiste des Midrashim, spécialiste de l'histoire juive, et en même temps un directeur de banque, quelqu'un qui est à mi-chemin justement entre la Haskalah, entre le sionisme, donc entre les Lumières juives et le sionisme, et quelqu'un de profondément religieux. Buber dira qu'il lisait la Bible avec lui tous les jours, non seulement en hébreu, mais aussi avec le commentaire de Rashi, etc. Et ça, pas seulement une ou deux vacances, une ou deux périodes, il est là de l'âge de 3 ans jusqu'à 16 ans, 17 ans, puisque son père, c'est-à-dire le fils donc de Salomon Boubert, le père de Martine Boubert, va revenir vivre à Lemberg, et donc, en réalité, Boubert va quitter Lemberg pour faire sa première année de faculté à l'université de Vienne. Donc c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup marqué Boubert, sur lequel on ne sait pas encore grand-chose, simplement parce que c'est très difficile, parce qu'il faut aller à Lemberg, parce qu'il faut savoir le russe, parce qu'il faut savoir l'ukrainien, parce que toutes ces archives, faut voir, Lemberg, c'est une ville martyre, hein, qui a été prise, reprise par les Allemands, par les Russes. Ensuite, il y a eu des pogroms épouvantables, et puis ensuite, il y a eu le glacis soviétique, ensuite la Pologne, etc. Enfin, je veux dire, c'est une ville des confins, hein, une ville dont les frontières existaient à peine, et qu'on connaît plutôt, effectivement, par Josef Roth et par des auteurs comme ça. Et donc, je pense qu'il y a encore aujourd'hui quelques grands ouvrages, comme on a fait pour Tchernovitz, mais j'allais dire, je ne veux pas encore une fois minorer les travaux de mes collègues. Tchernovitz, c'est plus facile, c'est plus petit. Il y a Bruno Schulz, il y a Paul Celan, et on est très vite quand même entre soi. Lemberg, c'est une véritable métropole, et on travaille d'ailleurs beaucoup maintenant sur l'histoire de cette ville.
Vous le disiez, il y restera jusqu'à 17 ans. À 18 ans, il revient à Vienne pour entamer ses années de formation. Donc là, c'est un long périple à travers le monde germanophone, où il rencontrera tout à la fois la pensée de Kant, les séminaires de Georg Simmel à Berlin, et bien sûr le sionisme avec Theodor Herzl.
Voilà, alors il découvre, enfin il s'engage vraiment sérieusement dans le sionisme vers les années 98, c'est-à-dire donc 2 ans après la fondation, après la publication de l'État des Juifs, et 1 an après le premier congrès sioniste. Il est à ce moment-là étudiant à Leipzig, et il fonde la première réunion d'étudiants sionistes à Leipzig. Et après, il ne quittera en réalité plus jamais ce milieu-là, même si très tôt, il a été fasciné par Herzl. Herzl, d'ailleurs, le lui rendait bien. Herzl lui a fait diriger sa revue qui s'appelait Die Welt, Le Monde, et avait bien vu que ces jeunes loups du sionisme avec Weizmann, qui est avec lequel il était très lié, qui sera le premier président de l'État d'Israël, comme on sait, c'était les ressources vives du monde juif. Simplement, ces jeunes loups trouvaient que Herzl était trop politique, trop diplomatique. On a les photos habituelles où il est en frac, en queue de pie avec son cylindre, et il fait toute la tournée des pop-up, c'est-à-dire des ambassades, allant même jusqu'au Vatican pour mendier un bout de Palestine et un bout de territoire, alors que Boubert et tous ces jeunes sionistes ont bien compris que ça ne se passerait pas comme ça, qu'on ne leur donnerait jamais, et que même s'ils avaient suffisamment d'argent pour l'acheter, ça ne marcherait pas. Et donc, très tôt, forcément, l'idée de ce sionisme humaniste, de ce sionisme culturel, est devenue très importante pour Boubert, qui existait déjà avant lui, puisque c'est la tradition d'Achabaham et de tout ce sionisme humaniste, encore une fois. Et donc, à partir de certains moments, il y a eu des polémiques assez dures, effectivement, avec Theodor Herzl, qui en plus, comme vous savez, meurt très tôt, en 1904. Et donc là, comme disait Peggy, la mystique devient politique, c'est devenu une technostructure, c'est devenu une histoire de parti politique, comme on dirait aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle il a un peu abandonné et il s'est tourné vers ses travaux d'histoire des religions et vers ses travaux sur le chassidisme. Mais en réalité, il a été très tôt rattrapé, si je puis dire, par le sionisme, parce que c'est un homme qui parle 5 ou 6 langues, à la fin il en parlera une dizaine, c'est quelqu'un qui parle très bien, qui écrit très bien, qui est très vite très charismatique, et donc ça va devenir une star de ce jeune judaïsme européen, et donc en réalité très vite, à partir du milieu de la Première Guerre mondiale, 1916, il va fonder son journal qui s'appelle Der Jude, d'ailleurs, carrément, comme on dit, c'est-à-dire le juif, où là, vous le mentionniez tout à l'heure, il va commencer à publier Gershom Scholem, Rosenzweig, Kafka, Benjamin, il n'en manque pas un, quoi. Hein. C'est le Gotha du monde juif de la Mittel-Europa.
Il avait déjà, un peu avant, je crois, à Zurich, été directeur de collection, vous en parlez, de...
Voilà, il a fondé, tout à fait, c'est très intéressant, là aussi, pendant longtemps oublié, il a fondé une collection qui s'appelle Die Gesellschaft, la société, qui est 40 petits livrets des premiers balbutiements de la sociologie allemande, pas la sociologie européenne, parce qu'elle avait commencé avant avec Durkheim en France, comme on sait, mais de la sociologie allemande. Et en fait, les textes qui sont publiés sont parfois connus, mais simplement, on ne sait pas qu'ils étaient dans cette collection, le plus célèbre étant bien sûr Die Erotik de Lou Salomé, Le texte sur la révolution de Landauer, le texte sur la religion de Zimmel, c'est des textes qui sont toujours cités, mais si on n'a pas regardé la petite footnote qui explique, la note de bas de page qui explique qu'il a été publié dans cette série, on rate effectivement cette affaire-là. En réalité, comme il n'a jamais eu, avant la République de Weimar, de véritable chair, c'était son gagne-pain. Il était éditeur, il dirigeait une ou deux collections chez Rutten & Lönig, qui était une des grandes maisons d'édition, pas seulement une maison d'édition juive d'ailleurs, et c'est là qui était c'était son gagne-pain. Et dans les archives on a toute la correspondance avec la quasi-totalité de l'intelligentsia allemande et autrichienne. Mon ami Jacques Le Rider a publié il n'y a pas très longtemps une traduction du texte de Fritz Mauthner sur le langage. C'est aussi quelque chose, il avait un nez tout à fait extraordinaire. Alors il y en a qui ont refusé de publier quelque chose, par exemple Freud lui envoie une très gentille lettre en disant écoutez je peux pas, je suis trop loin de ces choses là Rathenau aussi, à qui il avait demandé quelque chose, refuse. Mais vous voyez, il était d'ailleurs déjà très, très, très branché sur l'intelligentsia européenne. Et puis, à 20 ans, on est toujours un peu culotté. Et donc, il écrit au grand mandarin, cher collègue, alors qu'il n'a pas encore fini sa thèse. Et il leur demande un texte. Et Zimmel, par exemple, au début, commence par refuser. Mais il lui dit, c'est une très bonne idée, je vais vous aider. Et puis, Zurich, ça ne vous a pas échappé. Et c'est un moment très important, parce qu'il va faire la rencontre de Paola Buber, sa femme, où là, alors, il y a encore, quand on vieillit, vous savez, on dit toujours, il y a encore une thèse à faire là-dessus, mais là, il y en a plutôt 5 ou 6, parce que Paola Buber va le rencontrer donc à Zurich, qui elle-même a d'ailleurs déjà une existence absolument romanesque, vient d'un monde chrétien de Munich, elle se convertit, elle va devenir une véritable sioniste, elle va écrire dans le journal de Herzl, et comme elle a une très bonne plume, elle va faire, sous un nom d'emprunt, une carrière littéraire, elle va écrire des romans très tôt reconnu, qu'on retrouve maintenant, et surtout, elle va aider Buber dans la rédaction des récits et des contes hassidiques, puisqu'encore une fois, elle a une très bonne plume.
Oui, c'est ça. Alors, c'est toujours pareil, comme il est toujours à un endroit et à un autre en même temps, c'est à Florence qu'il va se replonger donc dans le hassidisme.
Voilà, c'est très curieux cette affaire-là, parce qu'en fait, il voulait faire une habilitation, donc une thèse d'État, quoi, comme on faisait à l'époque, après sa thèse qui portait sur la mystique chrétienne. Et comme il était dans un milieu finalement assez, assez riche et assez arrivé, puisque le grand-père Buber était très riche, le fils Buber aussi, le père de Martine, était aussi très riche, donc il est parti à Florence, avec d'ailleurs une babysitter et une cuisinière, et il est revenu d'ailleurs aussi avec une babysitter italienne, et donc il s'est cherché, comme on dit aujourd'hui, pendant un an, et puis je pense que là, au bout d'un moment, la famille a dû lui dire, bon, il faudrait décider, et à ce moment-là, il était déjà, puisqu'il s'était un peu éloigné de la politique sioniste, il était déjà dans le chassidisme, et effectivement, de temps en temps, de manière un peu espiègle, je trouvais que ce monde chassidique était un peu toscanisé, quoi, enfin, hein, alors que normalement, c'est quelque chose de la... C'est dans le froid, quoi. Hein. C'est des juifs du froid, des juifs de l'alcool, des juifs, si je puis dire, à bouclettes et à cafetan. Et c'est aussi ce qui a donné une saveur et une teinture un peu spéciale à ces premiers livres qui ont été des best-sellers en Allemagne et dans toute l'Europe, puisque tout le monde sait bien qu'il a été le grand introducteur, y compris chez des gens qui vont se séparer de lui après, bien sûr, comme Gershom Scholem, le grand introducteur de toute cette littérature chassidique qui était extrêmement mal fréquentée à l'époque. C'était quelque chose dont on ne voulait pas parler, hein, parce que ces chassidim, c'était des gens un peu louches, qui ne respectaient pas tout à fait les commandements de la Torah, qui buvaient beaucoup, qui dansaient tout le temps. Je veux dire, on n'était pas dans des bibliothèques et dans le lernen et dans l'étude des textes, quoi, hein, comme d'ailleurs dans toutes les religions. Hein, les mystiques ne sont jamais des gens toujours très recommandables. Les cléricatures se méfient toujours de ces gens-là.
Alors il y a la rencontre, hein, qui joue un rôle fondamental dans l'œuvre de Buber, mais aussi dans sa vie. On ne peut pas faire cette émission sans citer au moins deux noms, Gustav Landauer et un peu plus tard Franz Rosenzweig.
Absolument. Alors Landauer est un philosophe anarchiste politique. Qui va participer d'ailleurs à la révolution de Munich, aux révolutions de gauche qui sont entre la fin de la Première Guerre mondiale et la République de Weimar. Et c'est difficile de savoir lequel des deux a plus impressionné l'autre, mais il y a vraiment là le côté anarchiste religieux de Buber vient extraordinaire, certainement de manière directe de Landauer. Landauer avait édité Shakespeare, travaillé sur Hölderlin. Vous voyez, on est encore dans cette conjonction comme ça, à la limite de la politique, de la théologie et de la philosophie. Donc là, vous avez raison, il s'est occupé après toute sa vie de rééditer Landauer, d'éditer ses textes, ses lettres, de le faire traduire en hébreu. C'est quelque chose qui a été très important. Et alors Rosenzweig, rencontré un peu en passant dans les, en 14 et très vite après la Première Guerre mondiale, Franz Rosenzweig, qui est un immense penseur, un philosophe, qui lui, contrairement à Buber d'ailleurs, vient de les terres de l'assimilation, hein, des îles ioniennes à Iéna, comme il dit, c'est-à-dire de l'idéalisme philosophique de Parménide à Hegel, et qui va petit à petit retrouver son judaïsme et faire ce livre absolument extraordinaire, très difficile, qui s'appelle L'étoile de la rédemption, que notre ami Stéphane Moses a longtemps commenté et nous a aidé à comprendre. Et ensemble, ils vont se mettre à traduire la Bible à partir de 1925. Alors là, il faudrait passer sur l'allemand, donc on ne le fera pas pour ne pas déranger vos auditeurs, mais c'est une trouvaille absolument extraordinaire, puisqu'ils se sont bagarrés avec la langue allemande, de manière à ce que tous ces juifs assimilés allemands, qui connaissaient du judaïsme que ce qu'en en disaient, entre guillemets, Luther et Jean-Sébastien Bach, c'est-à-dire l'Ancien Testament des pasteurs, revenir à l'hébreu. Et comme l'a dit son fils, ça devait être sûrement un très beau compliment, elle dit « je lis l'allemand et j'entends de l'hébreu ». Comme toujours, c'est-à-dire la chose inverse, souvenez-vous, que voulait faire Moïse Mendelssohn, qui lui a traduit sa Bible en allemand, parce qu'il fallait que les juifs qui voulaient s'intégrer apprennent l'allemand, mais avec des caractères hébraïques, pour être sûr que ces gens puissent lire l'allemand tous les jours, et un bon juif lisait sa Bible tous les jours. Et donc vous voyez, on a en quelques générations un retournement tout à fait extraordinaire de cette opération.
On arrive là, vous avez été au-delà de la guerre, mais on a été un petit peu rapide. Il faut rappeler donc que Buber a quitté Berlin en 1916 pour aller s'installer dans une ville a priori plus tranquille, Eppenheim, qui deviendra le siège de sa vie familiale avec ses petits-enfants, mais aussi le siège d'une vie intellectuelle intense, puisqu'il c'est là qu'il rédigera « Je et tu ».
Voilà, il reçoit absolument toute la terre. C'est une très grande maison qui existe encore aujourd'hui, qu'on peut visiter, avec un musée permanent sur Buber. Et d'ailleurs, c'est très symbolique, il y a l'association internationale des réunions judéo-chrétiennes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment là un travail tout à fait extraordinaire qui est fait encore aujourd'hui. Et c'était à mi-chemin entre Heidelberg et Francfort. Hein. Et donc, à ce moment-là, il pouvait avoir toute l'intelligentsia qui était, dont Max Weber, par exemple, qui habitait, et le jeune Lukács, qui habitait Heidelberg et qui étudiait à Heidelberg, et Francfort, qui va devenir la grande université moderne, alors que Berlin est une université un peu stricte, un peu rigide. Et Francfort va être en réalité créé été 14, donc c'était pas une très bonne date, mais va commencer ses activités juste après la Première Guerre mondiale, doublée, comme vous le savez, de cette fameuse institution qui s'appelait le Lehrhaus, c'est-à-dire qui est cette université mi-Betamidrash, mi-université juive, fondée par Rosenzweig, dont Buber va être bien sûr une des stars. Et jusqu'en 29 et 33, Buber va enseigner dans les deux endroits, dans l'université allemande, où là il a une vraie chaire d'abord de lectureur, enfin de maître assistant, et ensuite de professeur honoraire, et dans ce Lehrhaus. Et vous avez raison, c'est là où il va avoir la genèse de ce livre absolument formidable, très important, qui vient d'être traduit d'ailleurs en hébreu, qui s'appelle « Je et tu », qui encore aujourd'hui joue un rôle central pour les médecins, pour les psychanalystes et pour tous ceux qui s'occupent d'anthropologie.
Pendant la guerre, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? En gros, il faut rappeler 1917, la déclaration Balfour. C'est à partir de là, peut-être, qu'il va revenir un petit peu...
Non, je pense que c'est déjà avant, parce que sa revue Der Jude, 1916, là, c'est vraiment la rupture. D'abord, il avait flirté un peu avec un certain nationalisme allemand au début de la guerre, surtout pour aller chercher les juifs soviétiques qui commençaient à être sujets des pogroms, après avoir espéré que tout ça allait bien se terminer. Très vite, les juifs russes vont se trouver malheureusement très, très défavorisés. Et donc l'idée, c'était pas de faire la guerre avec les Anglais, ni avec les Français, mais c'était plutôt d'aller faire la guerre contre les Russes et d'aller essayer de sauver justement tous ces Ostjuden. Et en réalité, je suis sûr, avant la déclaration Balfour, puisque comme vous savez, il était déjà engagé, même s'il s'était un peu retiré des affaires sionistes, on oublie qu'il a fait le premier livre sur l'histoire, sur l'université hébraïque en disant il nous faut une université juive, avec justement son compère, son complice, Chaim Weizmann, en 1902. Donc vous voyez, c'est bien avant la déclaration Balfour. Et après, forcément, il est rentré, c'était le navire amiral du sionisme allemand, c'est-à-dire qu'il fait 5 conférences par jour, il est toujours dans les trains, et il sait tout faire. Il sait tout faire, il sait faire de l'agitation politique, parler de philosophie, parler des midrashim, parler de la Bible et parler du chassidisme. Donc vraiment, là, on l'a utilisé, et il s'est fait lui-même l'instrument de ce renouveau du judaïsme auquel on va assister pendant la République de Weimar, c'est-à-dire entre les de guerre.
Et il y a aussi cette situation très particulière dans laquelle il va être. Donc à partir de 1933, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il est interdit d'enseignement, mais il est déjà très connu internationalement. Il a participé notamment aux rencontres de Pontigny. Sa notoriété lui permet de continuer à voyager. En 1935, il ira notamment en Palestine. Donc même s'il ne peut pas enseigner, il garde une activité intense et il exhorte très vite les Juifs allemands à résister à cette oppression et à prôner une nouvelle judaïsation.
Oui, ça, je suis très content que vous parliez de ça, parce qu'en réalité, ceux qui n'aiment pas Buber, et il y en a quand même quelques-uns, malheureusement, enfin, j'espère qu'il y en aura de moins en moins, mais lui reprochent toujours de ne pas être parti plus tôt, puisque Gershom Scholem part en 23, toute une série de gens qui se recommandaient de Buber sont partis très tôt. Mais le raisonnement était le suivant. D'abord, il y avait des problèmes personnels, et puis il s'occupait de ses petites filles, puisque, comme vous savez, il a rejoué dans son histoire familiale, deux fois le grand-père qui élève les petits-enfants, mais simplement il a dit on ne peut pas abandonner cette communauté. Ces gens-là sont mis au banc de la société, vont bientôt porter l'étoile jaune, ça n'avait pas commencé à ce moment-là, heureusement, mais et puis on les laisse comme ça, ils ne savent même pas ce qu'est le judaïsme, ils ne savent même pas pourquoi ils sont mis de côté. Pour eux, leur judaïsme, c'est Jean-Sébastien Bach, comme on le disait, et Luther, et on les laisse comme ça, en rase campagne. Alors ils sont deux grandes personnalités à avoir fait ce raisonnement, et il y en a un qui a même été plus loin que Buber, c'est Léo Beck. Avec Léo Beck, ils sont aussi restés dans leur communauté. Et comme vous savez, Léo Beck, sur lequel mon ami Maurice Ayoun a écrit une très belle biographie, Léo Beck est resté jusqu'à Theresienstadt avec sa communauté et a même été un des derniers à partir du camp, à la fin, quand il a été libéré par les Américains, en disant « Moi, je reste jusqu'à ce que vous ayez emmené le dernier malade des typhus. » Donc il y avait quelques jeunes rabbins, celui que j'ai eu comme professeur à Harvard, qui s'appelait Alexander Altman, qui est resté jusqu'en 38. La famille Winter, il y en a beaucoup. Et pendant longtemps, c'était tabou, ça. Et puis maintenant, on commence à les redécouvrir. En réalité, très vite, on l'a réautorisé à parler, puisque, comme vous savez, au début, les nazis voulaient simplement que les juifs s'en aillent. Et donc, on a dit, écoutez, c'est un bon sioniste, hein, il est très enthousiaste, donc lui, on va lui redonner le droit de parole, parce que comme ça, plus il va pouvoir faire partir les juifs, mieux ça ira. Mais vous avez raison, il avait lui-même, d'ailleurs, déjà donné sa démission, un peu comme Einstein, qu'il a donné avant qu'on lui l'impose, en disant « moi, je ne reste pas là ». Et le Lehrhaus était quand même en survie depuis la mort de Rosenzweig en 1929, et il en a profité, il a réussi à le réouvrir à partir de 1933, et donc il a animé cette résistance spirituelle qui est encore aujourd'hui quelque chose de tout à fait extraordinaire.
Et puis, malgré tout, au fil du temps, la question de l'immigration en Palestine va devenir de plus en plus pressante.
Mais bien sûr, parce qu'au fur et à mesure, si vous voulez, jusqu'en 1935-1936, jusqu'aux Jeux Olympiques à Berlin, on a pu croire qu'il allait avoir une alternative. On a pu se dire, bon, ça va, on va les supporter jusque-là. Quand vous lisez le journal de Klemperer, c'est tout à fait extraordinaire, quoi, jour après jour. Un jour, on demande les vélos, le lendemain, les petits chiens, après, les voitures, après... Alors toujours, comme dit notre maître à tout, Shaul Friedlander, si les Juifs n'avaient pas été aussi optimistes, ça serait pas tout ça, serait arrivé de manière moins dramatique, parce qu'ils se seraient dit, bon, là, on s'en va, là, c'est pas possible. Et on voit ça, qu'à chaque fois, on dit, bon, ça y est.
Ils croyaient quand même en l'Allemagne.
Ils croyaient en l'Allemagne, et puis pas seulement en l'Allemagne, mais à l'Europe. Mmh. N'oubliez pas que ces Juifs allemands, parlaient de Walter Benjamin tout à l'heure, ces gens-là, ils sont en France, en disant, là, on est quand même tranquille. Puis après, ils vont à Prague, et là, on nous touchera pas. Et puis, je suppose que là, à partir d'un certain moment, bon, Buber était déjà venu plusieurs fois depuis 27 en Palestine, il avait voulu acheter une maison, etc. Donc pour lui, ça n'a c'était aucun doute, si vous voulez, c'était juste un problème de timing, et donc effectivement il est parti en 38, juste avant l'Anschluss, c'est-à-dire le moment où on a aussi où les Allemands sont rentrés en Autriche et ont Anschlussé, comme on dit en français, l'Autriche et Vienne.
Alors, j'invite donc tous nos auditeurs à poursuivre cette histoire passionnante avec vous, Dominique Bourrel. Je rappelle donc que votre livre, Martine Buber, Sentinelle de l'humanité, est paru chez Albin Michel, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et nous poursuivrons donc la semaine prochaine dans Mémoire vive, cette plongée dans la biographie en votre compagnie. Je signale également la diffusion prochainement sur Arte d'un film réalisé par Pierre-Henri Salfati, Martine Buber, itinéraire d'un humaniste, produit à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort et dont vous avez été, Dominique Bourrel, le conseiller historique. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.